Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
Radio Rosana Pipari.
Lo que se reproduce y esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'un jour dans le monde nous emmène dans les territoires palestiniens. Ce soir, on parlera longuement avec Claude Guibal qui vient d'y passer une semaine. Pourquoi la mèche allumée par Trump sur Jérusalem n'a pas créé d'explosion? La lassitude, les perspectives d'avenir des Palestiniens, vous le verrez à travers trois générations de Palestiniens qui vivent sous le même toit. Ce soir, nous sommes aussi au Salvador, nous sommes en Corée du Nord et on se demande si c'est bien du réchauffement climatique qu'est mort cet ours blanc dont la vidéo a fait trois fois le tour du monde. 18h45. Le vrai du faux de l'Europe, on parle de kebab. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'interdiction européenne? 18h55, l'édito du journal Le Monde, c'est Corinne Lenne ce soir depuis San Francisco, dont le maire emblématique vient de mourir et vous allez voir que son histoire vaut d'être racontée. Mais d'abord, on parle de service public de l'audiovisuel, histoire de voir dans le monde si l'herbe est plus verte, c'est les autres. Jusqu'à ce que peut-être on découvre que c'est du gazon artificiel, on verra ça dans un instant. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
At 10 o'clock, the BBC News now on BBC One with Sean Williams.
Un extrait de la BBC, parce que quand on parle de services publics de l'audiovisuel ailleurs dans le monde, en Europe en particulier, c'est le premier exemple qui vient à l'esprit. L'idée ce soir, justement, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionnent les autres. Bonsoir Philippe Bailly.
Bonsoir.
Vous avez été journaliste, vous avez travaillé à l'INA, vous êtes fondateur du cabinet NPA Conseil, donc l'audiovisuel c'est votre jardin. L'exemple qu'on cite le plus fréquemment, je le disais, c'est celui de la BBC pour deux choses. Il y a la qualité et puis il y a le plan de restructuration aussi qui a vraiment mis terriblement les choses à plat. C'est peut-être pour ça aussi que c'est notre exemple préféré, j'ai presque envie de dire. Ça a été presque une purge à la BBC, disons les choses clairement. 26 000 postes au départ, 16 000 au dernier comptage qui aura lieu dans 5 ans. Ça a été extrêmement violent pour eux, en fait.
Ça a été extrêmement violent, ça s'est fait en plusieurs fois, avec des plans d'économie par centaines de millions d'euros, et d'euros, avec la suppression d'une chaîne, BBC Free, qui avait été lancée en 2003 pour s'adresser aux jeunes adultes, les 15-34, et puis on a considéré qu'elle... Finalement, ça se passerait très bien sur Internet. On a basculé ces programmes. C'est plus ou moins ce qui est envisagé, en tout cas dans le document de travail du ministère de la Culture pour France 4. Si je peux me permettre, c'est symptomatique que vous ayez choisi la BBC comme entrée de reportage.
Allez-y.
Parce qu'effectivement, la BBC, d'abord, c'est passé longtemps comme l'exemple, l'archétype du service public intouchable, y compris avec le BBC Trust, donc un organe de direction séparé, etc. Puis à la fin, malgré tout, ça a été rattrapé par une restructuration sévère. Et puis parce que l'autre chose, c'est qu'en Grande-Bretagne, il n'y a globalement pas de débat sur la légitimité de la BBC, alors que la BBC, c'est aussi le groupe qui met à l'antenne le maillon faible, enfin qui ne met pas que du qualitatif, du culturel, de la découverte.
On parlait pas de contenu, c'est ça que vous dites en fait. Il n'y avait pas de débat sur le contenu en fait.
Et surtout pas de sujet sur la légitimité. Ce qui mine le débat sur l'audiovisuel public en France, c'est qu'il y a une espèce de questionnement perpétuel sur sa légitimité. Le jour où il fait de l'audience, on lui dit qu'il est trop commercial. Le jour où il en fait pas assez, on lui dit qu'il gaspille l'argent du contribuable. Et puis peut-être le point de nouveauté, mais on y reviendra, c'est que le nouveau pouvoir politique n'a pas l'air de partager ce qui était quand même globalement la conviction de ses prédécesseurs sur le fait que ça sert vraiment.
Alors, pour rester sur la Bible quand même, parce que vous parliez effectivement des contenus, est-ce que cette restructuration énorme, est-ce que ça a changé justement dans les contenus? Est-ce qu'on sait qu'il y a moins d'argent pour du reportage, pour un certain nombre d'émissions? Est-ce que ça s'est vu ou pas?
Sur les chiffres d'audience, pas vraiment. Sur les contenus, ça s'est vu, mais notamment sur les contenus sportifs. La BBC a dû économiser, là aussi, c'est d'ailleurs ce qui est prévu.
Absolument.
En France, sur ces contenus sportifs. Une différence aussi quand même avec la France, c'est que le fait pour la BBC à la fois de n'être pas financé par la pub, mais par une redevance dont on sait à peu près le niveau. D'autre part, d'avoir une très grosse activité de vente de droits à l'international, qui est une grosse part de ses recettes, ça fait deux flotteurs, je dirais, deux éléments stables dans ces recettes. stable et prévisible, alors qu'en France, on voit bien que d'un quinquennat à l'autre, on bascule dans les orientations, et puis que on signe un com avec les entreprises de l'audiovisuel public il y a un an, qu'aujourd'hui le gouvernement, mais comme ses prédécesseurs, remettent en cause aussi vite.
Je vais vous y ramener, pardon, Monsieur Bailly, je vous ramène encore une fois à la BBC. Effectivement, on parlera tout à l'heure de redevances et de ce que chacun paye en Europe. Vous le disiez, la différence, elle est là aussi, ça vend la BBC. Les séries, par exemple, en ce moment, Top of the Lake qui fait un carton, ça c'est la BBC. The Fall, c'est la BBC. Il y a des programmes qui coûtent cher et qui vont partout dans le monde. C'est ça la grande différence, peut-être.
Avec une différence.
Downton Abbey, probablement, pour en citer un que tout le monde a vu.
Absolument, bien sûr. Mais avec une différence, effectivement, bien sûr, une facilité, l'anglais, qui se déplace facilement. Mais au-delà, un problème de législation. En France, depuis Catherine Tasca, donc depuis une vingtaine d'années, les chaînes, globalement, sont peu propriétaires des programmes qu'elles financent, donc par définition n'ont pas la capacité à les revendre. Ça fait une vraie différence.
Alors, est-ce qu'ils sont les seuls? Certainement pas. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un service public de l'audiovisuel, de toute façon, disons en Europe, qui soit épargné par des économies qui sont très souvent drastiques?
Pour moi, ceux qui sont une sorte d'îlot de sérénité, ce sont les Allemands. Avec un système à deux têtes, ARD/ZDF, donc d'un côté une sorte de France 3, de l'autre côté pourrait être France 2. Et en tout cas, un climat qui est globalement pas à la polémique, qui est plutôt serein, une redevance qui est élevée, donc un financement qui est prévisible.
Pas de quota, pas d'obligation de programme non plus chez les Allemands, ce qui est intéressant si on compare avec d'autres.
Parce que globalement, les Allemands, d'ailleurs comme la plupart de nos voisins, se sont plutôt alignés sur le minimum, ou en tout cas le bas de la fourchette des contraintes européennes, là où nous, la France, on a décidé d'aller bien au-delà.
Ce qui est emblématique aussi, on l'a bien vu juste après la crise de 2008, c'est que c'est là qu'on fait les premières économies dès qu'on parle d'austérité. Je pense aux Espagnols, je pense aux Portugais particulièrement. La RAI, c'est encore un autre problème parce qu'il a fallu expurger les implications politiques qu'il pouvait y avoir à la RAI, mais on se rend bien compte que la première chose qu'on ferme, ce sont les services publics dans ces pays-là.
Parce que le moment que vous citez, 2008, et les pays que vous citez, c'est grande crise économique, donc grande crise des marchés publicitaires, et donc grande crise aussi de ces entreprises de services publics qui étaient, encore une fois, principalement financées par la pub.
Mais la question, c'est est-ce qu'on revient en arrière ensuite, une fois qu'un pays comme le Portugal, qui a perdu une télé entière, se remet un peu, parce que ça va un peu mieux dans ce pays, est-ce qu'on revient en arrière, ou est-ce qu'on se dit, finalement, puisqu'on est parti comme ça, restons-y?
Alors, j'ai presque envie de vous répondre par un pied de nez, les Grecs sont revenus en arrière, mais dans un contexte très différent.
Et la fermeture avait été très différente aussi, par ailleurs.
J'allais dire, c'est l'arrière-plan politique est très différent. Pour le reste, non, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'effet cliqué, qui est un peu porté d'ailleurs par quelque chose que dit votre président cet après-midi dans Le Monde, c'est on questionne la légitimité du service public, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans un monde d'hyperabondance de programmes. Donc, pour justifier de son utilité, de sa présence, il faut que les services publics soient peut-être pas d'ailleurs si différents que ça du reste de l'offre. Ça veut pas dire forcément inaccessible, difficile, etc. Mais en tout cas, qu'ils soient extrêmement bien assis sur leurs fondamentaux et sur ce qui fait leur raison d'être.
Qui nous ressemble le plus en Europe? Parce que finalement, chacun, on parlait de la BBC tout à l'heure, qui a toujours été une entité entière radio-télé, c'est le cas de beaucoup d'autres. Qui nous ressemble le plus? Ou est-ce qu'on est une sorte d'exception, nous, avec notre éclatement et puis notre non-regroupement, en tout cas pour l'instant?
Alors, peut-être la RTBF, si on cherche une ressemblance, mais surtout, j'ai l'impression, enfin, il me semble, on est vraiment, mais comme géographiquement, dans une espèce de milieu entre Allemagne et Angleterre au nord, Italie, Espagne au sud, avec des tas d'éléments, sur lesquels nos voisins ont été dans des partis pris plus francs dans une direction ou dans l'autre, et nous on est resté un petit peu au milieu du chemin. Sur la pub, on l'a laissé jusqu'à 20h, alors que Sarkozy l'aurait bien totalement supprimé. Sur la redevance, ça a été risible de voir les trois ministres de la culture de François Hollande se succéder pour dire qu'il fallait la réformer, il fallait l'étendre à tous les trucs. Là où les Allemands, les Anglais ont considéré que dorénavant, c'était pas juste un téléviseur qui donnait accès au programme, mais un téléphone, un ordinateur, une tablette, et que donc c'était légitime d'étendre à peu près à tout le monde le paiement de la redevance. Nous, on l'a toujours pas fait.
Sauf en Espagne, où il n'y a pas de redevance. Où on paye sur les compagnies téléphoniques.
Oui,
en fait.
Ce qui est une forme indirecte de redevance. En Côte d'Ivoire, de la même manière, votre redevance, vous la payez via la compagnie d'électricité. Mais encore, il y a quand même bien un paiement qui remonte pour le financement de l'audiovisuel. On est un peu les champions du positionnement pas totalement abouti, de la même manière que sur l'appréciation et sur le regard porté, je reviens un instant à ce que je disais au début, il y a une part de responsabilité des dirigeants de l'audiovisuel public. On n'a jamais tranché encore clairement sur le fait de savoir si l'audiovisuel public devait faire différent quitte à pas faire d'audience ou s'il devait faire quand même de l'audience. Et la responsabilité à laquelle je pensais, depuis trois mandats, depuis Marc Tessier, le service public exploite un baromètre qualitatif de la qualité des programmes. Il la mesure tous les jours, mais il n'en parle pas ou très très peu, ce qui nous permettrait au moins d'avoir ce double regard.
Mais les autres n'ont pas fait de croix sur l'audience, si nos voisins. Est-ce qu'ils ont fait une croix sur l'audience? Est-ce que les Allemands font une croix sur leur audience pour la qualité?
Non, mais encore une fois, si vous allez sur le site de la BBC, je ramène au début de notre propos, vous trouvez en ligne, accessible à n'importe qui, une feuille de température, entre guillemets, de la BBC qui est publiée de manière hebdomadaire, dans laquelle vous avez à la fois les scores d'audience, mais les éléments de satisfaction, etc. Encore une fois, ils assument cette double exigence à la fois de pas être replié sur soi-même, de parler au plus grand nombre parce qu'on est quand même une chaîne de télé et que on mobilise de la ressource de diffusion, etc. Mais de pas être forcément sur chacune des émissions au top de la qualité, mais que globalement quand même on soit une télé de qualité et qu'en tout cas ça soit suivi.
Nous, attendez, j'ai honte, je sais plus si c'est 136 ou 138 euros la redevance
c'est
chez
138.
Nous. 138 euros, 145 livres par an donc pour la BBC, vous le disiez. On est dans quelle fourchette pour ce qui est de notre redevance, nous? Est-ce qu'on est un pays cher?
Non,
qui sont bien au-dessus, effectivement, les Allemands, les Suisses.
Oui, non, on est plutôt, parmi les pays qui ont une redevance. Vous citiez l'Espagne qu'on n'a pas, mais on est plutôt dans les pays effectivement où la redevance est faible, relativement faible, et dans lesquels elle est amenée, s'il n'y a pas de réforme en plus, à structurellement décliner, puisque à un moment ou à un autre, le basculement de certains ménages vers uniquement ordinateur et tablette fait qu'il y aura moins de contributeurs.
Alors Philippe Baillet, je voudrais vous emmener voir à quoi peut ressembler le contre-exemple, en fait, quelque chose qui fonctionne totalement à l'inverse de ce que nous sommes. C'est aux États-Unis que nous allons. Bonsoir Grégory Philips.
Bonsoir Fabienne.
À l'inverse, je disais Grégory, parce qu'il y a deux énormes navires publics aux États-Unis, NPR, National Public Radio pour la radio, et PBS pour la télévision. Mais le financement, c'est vous, c'est moi, ce sont des dons d'entreprise, des dons de particuliers, rien à voir avec l'État, rien à voir avec la redevance dont on parlait à l'instant.
Oui, vous avez raison. Je veux pas vous raconter ma vie, Fabienne, enfin, sauf si vous insistez.
Non.
Mais tous les matins, moi, j'aime bien écouter le podcast de NPR qui s'appelle Up First. C'est un très bon condensé de l'actualité américaine sur 12 ou 13 minutes. Et voilà comment ça commence tous les matins.
Hey, this is Steve Inskeep. First, I want to thank you here. Thank you very much because people like you make this podcast and everything else that NPR News does possible. Visit donate.npr.org/upfirst to give. And then you can share why you gave with the hashtag WhyPublicRadio. Hey, let's keep learning together.
Voilà Fabienne, le journaliste commence donc son bulletin par un appel et un remerciement aux donateurs parce que dans le budget total de NPR, 70% des fonds viennent des dons de particuliers ou d'entreprises, 10% à peu près du gouvernement fédéral, 8% des universités qui sont partenaires et 5% des États ou des villes, le financement local. Donc 70% du budget financé par des mécènes, vous l'avez dit, par des entreprises, mais aussi des auditeurs comme vous et moi. On peut envoyer quelques dollars à NPR comme on veut, à cette radio de service public pour dire son attachement. Alors faut préciser que NPR, c'est très différent de ce qu'on connaît en France parce que c'est pas une radio, mais un réseau de 900 stations sur tout le territoire qui travaillent en syndication. Ça veut dire qu'elles peuvent reprendre les programmes proposés par NPR un peu à leur guise et mettre ce qu'elles veulent autour. Ça marche plutôt bien, faut dire, notamment sur les podcasts. Énorme succès de NPR sur les podcasts, mais faut le reconnaître aussi auprès d'un public CSP+, plutôt âgé. C'est d'ailleurs l'un des défis ici de la radio publique, de rajeunir son auditoire.
On en connaît d'autres qui ont des défis similaires. La télévision, ça marche pareil, Grégory?
Oui, à peu près, avec un peu plus d'argent public. Et c'est d'ailleurs pour ça que la patronne de PBS est inquiète en ce moment, parce que l'administration Trump veut limiter sa participation. 350 stations de télévision à travers le pays, PBS, des émissions cultes comme celle du journaliste Charlie Rose, mais qui s'est arrêtée fin novembre parce que le journaliste a été accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel et pas du tout pour des problèmes de financement.
Et on verra d'ailleurs si ça crée de vrais problèmes de financement à cette télévision PBS. Merci beaucoup, Grégory Philips. Philippe Bailly, c'est vrai qu'on est dans un système qui est intégralement différent, qui pour nous est contre-culture, mais qui s'appelle service public. Le public paye pour avoir son service. C'est aussi simple que ça.
Oui, mais c'est, je pense globalement la différence entre la conception américaine et européenne de ce qu'est un service public. Un service public, c'est ce pourquoi on mutualise la dépense, justement, et donc c'est financé par l'État.
Une dernière question subsidiaire pour vous. Nous, on a le CSA. Est-ce que c'est une spécificité française ou est-ce qu'on partage notre sens de la complexité avec d'autres qui ont des autorités de régulation comme ça ou pas?
Écoutez, j'aurais du mal à vous faire une réponse statistique. En tout cas, pour terminer, par la BBC, revenir au départ. La BBC avait le BBC Trust jusqu'à une période 2016 de mémoire, et c'est revenu dans le giron, je dirais, d'une entreprise normale, c'est-à-dire dirigeant nommé par l'État et régulation par l'Ofcom, qui est le CSA britannique.
Philippe Bailly, merci beaucoup pour votre passage dans Un jour dans le monde. On reprendra cette discussion tout à l'heure en parlant spécifiquement de nous. Ce sera dans le téléphone sonne tout à l'heure à 19h. Merci beaucoup, à très vite.
France Inter, Fabienne Synthès, Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde au Salvador, en Corée du Nord, et avec cet ours blanc agonisant qu'on a vu partout, mais attention à ce qu'on nous montre. Claude Guibal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous viendrez, vous, nous raconter longuement votre semaine de reportage dans les territoires palestiniens.
Oui, en attente d'un brasier palestinien qu'on a encore, pour l'instant, pas vu s'enflammer.
Delphine Simon, le vrai du faux de l'Europe, rendez-moi mon kebab.
Oui, va-t-on interdire les kebabs en Europe? C'est une rumeur qui enfle partout sur le continent.
Bah écoutez, ici, on a pris position. Allez, à tout de suite. Merci de nous écouter. Voici Portugal The Man, Philip Steele. I keep my hands on myself. Take out dust them all, put them back up on the shelf. Just a little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Portugal The Man, Feel It Still, et on me dit qu'il y a des marvelettes à l'intérieur, figurez-vous. Florence Paracuelo, c'est là. Power Hit Radio. Magic FM. Desservi pour info. 60 minutes. Sous les radars, vous passez, Florence, avec votre besace et des infos internationales que les gros titres oublient en route. La première escale est pour le Salvador ce soir.
Encore un pays où le sort des femmes ne fait pas rêver, il ferait plutôt cauchemarder. Hier, une femme a été condamnée à 30 ans de prison, reconnue coupable d'homicide aggravé. Son crime, une fausse couche dans un pays où l'avortement est totalement interdit, quelle que soit la situation. Elle n'est pas la seule à vivre ce calvaire, celui d'une grossesse qui se termine mal. À 9 mois pour elle, sa fausse couche, elle l'a faite aux toilettes, sur son lieu de travail, après avoir appelé les urgences parce qu'elle se sentait mal. Au réveil, la police est là, c'était il y a 10 ans, depuis elle est en prison. Elle s'est exprimée pleine d'espoir hier, juste avant son procès en appel. Qu'il me rende ma liberté. Parce que je suis innocente. Parce que j'ai une famille pour laquelle je veux me battre. Parce qu'il y a des gens qui m'aiment et que j'ai besoin d'être avec eux. Verdict, 30 ans.
C'est épouvantable.
La cour accuse Théodora d'avoir caché sa grossesse, de n'avoir pas voulu du bébé, quand bien même elle a appelé les secours, ce qui n'est pas ce que ferait une mère infanticide. Elle serait entre 20 et 30 dans son cas. Cet été, une jeune fille de 18 ans a été condamnée à 30 ans de prison. Elle aussi, une jeune fille violée, qui a accouché dans les toilettes de son lycée après un déni de grossesse. L'enfant était mort à l'arrivée de la police. Elle a été incarcérée après avoir passé une semaine menottée sur son lit d'hôpital. Depuis un an, le Parlement du Salvador étudie une dépénalisation de l'avortement en cas de viol ou de danger pour la santé de la mère, mais le projet n'a toujours pas été déposé à l'Assemblée.
Florence, vous revenez maintenant sur cette fameuse vidéo d'un ours blanc agonisé. Tout le monde l'a vue, cette vidéo. Elle a été très vite, peut-être un peu trop vite, érigée en preuve du réchauffement climatique.
Cette vidéo qui a fait le tour du monde, effectivement, a été filmée par une ONG de défense des océans dans le nord du Canada, tout près du Groenland. De la musique a été ajoutée aux images pour accentuer l'aspect dramatique de cet ours qui est en train de mourir de faim. Il se traîne sur une terre brune, il est seul, c'est évidemment très triste. Les images postées sur Instagram s'accompagnent de ces mots du fondateur de l'association. La vérité est celle-ci, si la terre continue de se réchauffer, nous perdrons des ours et des écosystèmes polaires entiers. Soit, mais qu'est-ce qui prouve au juste que cet ours est une victime directe du climat ? Rien, il n'a pas été autopsié et des scientifiques s'interrogent. C'est Le Monde qui publie leur tweet. Un biologiste spécialiste de l'Arctique canadien précise qu'il n'y a pas de glace l'été dans le secteur. C'est à ce moment-là que les images ont été tournées, donc pas de problème de fonte qui aurait empêché l'ours de se nourrir. On peut penser qu'il était malade, dit ce spécialiste, rejoint par un autre, parce qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire qu'un ours meurt de faim, de la simple blessure au mal de dents. Bref, si le réchauffement climatique est une réalité, toutes les images qu'on nous montre pour en attester sur le mode de l'apitoiement ne sont pas forcément de bons exemples.
Allez, vous allez nous parler maintenant d'un homme heureux, Florence.
Heureux, qui comme Jørn Andersen profite d'un superbe job d'expatrié à Pyongyang. Jørn Andersen est norvégien, c'est un footballeur qui a fait sa carrière dans le championnat allemand et qui a repris les rênes de l'équipe nationale nord-coréenne depuis mai 2016. L'AFP l'a croisé au Japon aujourd'hui où ses joueurs participent à la Coupe d'Asie de l'Est, l'occasion de parler un petit peu de sa nouvelle vie chez les Kim. Eh bien, figurez-vous qu'il est très content de son choix, Jørn Andersen. Il trouve que la Corée du Nord, c'est très calme, c'est très propre et qu'il n'y a pas de criminalité. D'ailleurs, l'été dernier, il n'a pas compris pourquoi la Malaisie avait refusé de venir jouer à Pyongyang.
I live in Pyongyang since one year.
Je vis à Pyongyang depuis un an, disait-il. C'est une ville agréable où on vit comme en Europe. Donc je ne comprends pas pourquoi les Malaisiens ont peur de venir chez nous. J'ai cru comprendre qu'il y avait un petit problème entre la Malaisie et la Corée du Nord, mais ce n'est pas de notre faute.
But it is not our case.
Voilà, un petit problème, effectivement. C'était Kim Jong-un qui avait simplement fait assassiner son demi-frère en plein aéroport à Kuala Lumpur. Ce qui n'entame pas le plaisir d'Andersen. Il vit à l'hôtel avec sa femme dans une grande suite et ses joueurs sont formidables, Fabienne, jamais fatiguée, toujours motivée, ils travaillent d'arrache-pied, ça change de l'Europe, a-t-il voilà, confié à l'AFP.
Vous envoyez en Corée du Nord, vous, Florence Paracolos, vous allez voir ce que vous allez voir. Merci beaucoup.
Konnichiwa.
France Inter. Le 18-20. Un jour dans le monde.
Et le reportage d'Un jour dans le monde nous emmène dans les territoires palestiniens ce soir. Et c'est dans un coin assez particulier des territoires que nous voulons vous emmener. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir Fabienne.
On aime bien faire ça dans Un jour dans le monde, s'arrêter avec les reporters de France Inter, prendre un peu le temps pour raconter de l'intérieur ce que vous voyez en reportage, une sorte de making-of en mauvais français, pour raconter un peu de l'intérieur. Claude, si vous êtes parti comme d'autres dans les territoires, c'est pour essayer de comprendre ce qui pouvait se passer après les déclarations de Trump sur Jérusalem, capitale d'Israël. Et ce qu'on disait à ce moment-là, c'est attention, risque d'embrasement. Or pour l'instant, ans, il n'y a pas eu d'affrontement. Alors, il y en a régulièrement, bien sûr, des affrontements, mais il n'y a pas eu d'explosion, pas celle que l'on redoutait. Et on sent quoi, Claude? Une sorte d'apathie, peut-être une fatigue,
en fait. Oui, en fait, surtout pas mal d'attentisme. On sent que la mobilisation, eh bien, elle peine à trouver son élan. On voit aussi que beaucoup de choses semblent se faire en coulisses, parce qu'on voit Mahmoud Abbas, le président palestinien, qui a fait et qui continue de faire la tournée des chancelleries arabes et occidentales. Il faut dire que tout ça, ça intervient quand même au moment où le Hamas et le Fatah, qui sont donc les deux frères ennemis palestiniens, eh bien, sont en plein processus de réconciliation. Il y a donc derrière tout ça aussi des enjeux internes aux Palestiniens qui sont vraiment très lourds.
Alors justement, tiens, précisément, vous allez nous emmener pile sur l'endroit peut-être qui permet de comprendre pourquoi on ne parle pas de cette troisième intifada, un endroit qui illustre parfaitement ce que vous êtes en train de nous décrire. Nous sommes en Cisjordanie, au checkpoint d'ICO. Vous y êtes retourné plusieurs fois cette semaine et c'est là que vous avez pris le pouls de cette colère palestinienne.
Oui, vraiment, là où je vous emmène, Fabienne, c'est effectivement cet endroit-là. On est à l'entrée nord de Ramallah, en fait. Alors, fermez les yeux et essayez d'imaginer un rond-point avec d'un côté les buildings de Ramallah. C'est de là qu'arrivent donc les shebabs, les jeunes qui viennent en découdre, car sur ce rond-point, évidemment, il y a aussi l'armée israélienne. Alors, cette armée, elle est positionnée au pied d'une colline sur laquelle s'étend la colonie juive de Beit El. C'est environ 2500 colons qui vivent ici en Palestine. Et c'est là que tous les jours, comme vous l'entendez derrière moi, eh bien, il y a des affrontements. Mais alors, ça fait comme une, disons-le, comme une partition bien maîtrisée. En fait, ça commence en fin de matinée. On allume des tas de pneus qui brûlent, on sort les keffiyehs, on casse les bords des trottoirs. Et en face, eh ben, ça tire des lacrymos, des bombes assourdissantes, des balles en caoutchouc avec du métal dedans. Ces balles, elles blessent parfois très grièvement lorsqu'elles touchent un œil. Et puis, il y a aussi parfois dans le tas une balle réelle. Alors, c'est tout noir de fumée. On suffoque dans les gaz. Et au milieu, pile sur le rond-point, eh ben, il y a une petite maison blanche, toute seule, au-dessus de laquelle eh bien, passent les cailloux et les balles. Et c'est là que vit un vieux monsieur de 82 ans, Noman Abdeldayem, qui, lui, ne veut pas bouger.
Alors justement, tiens, ce monsieur-là, Claude, avec votre preneur de son, Jérémy Tuile, vous avez été le voir.
Ouais, et c'est son fils, Abdel, et ses petits-fils, Fadi et Hicham, qui nous ont accueillis. Ils étaient en train de ramasser les munitions tombées sur la maison ce jour-là, quand nous sommes arrivés.
Il y a tous les modèles.
C'est quoi ça?
Ça, c'est une balle en caoutchouc. Il y a du fer à l'intérieur.
Ça, c'est les balles que les Israéliens envoient sur les jeunes. Et ça, c'est les balles lacrymogènes. Et ça, l'année dernière, on a changé les vitres plus que 10 fois. Après, on a décidé à faire ce grillage-là sur la vitre pour protéger la maison.
Israël n'a pas le droit de prendre nos terres. Vous avez vu, ma maison est placée, c'est la seule maison qui est dans le coin d'Asie. Et Israël veut que je sorte de cette maison. Si vous voyez, vous avez vu les tirs, lacrymogènes, les jeunes qui envoient des pierres, tout ça. Ils vont la détruire sous ma tête, ils vont l'écraser, je vais rester là jusqu'à ma mort. Je ne vais pas sortir.
Voilà, on le sent un peu le patriarche, à la fois obstiné et aussi résigné, en fait.
Ouais, en fait, un peu comme tout le monde, en Palestine, parce que on se rend bien compte quand on est là-bas que tout le monde a, en fait, le pied sur le frein et des deux côtés. L'armée israélienne qui riposte, certes, mais qu'on sait capable d'être bien plus dur que ça. Et puis, les Palestiniens qui, pour l'essentiel, à part quelques roquettes tirées depuis Gaza, se battent juste avec des pierres. Et alors, quand vous allez dans les manifestations, derrière les jeunes, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de policiers palestiniens en civil avec leurs grosses lunettes et leurs 4x4 qui vérifient s'il y a pas une arme qui sort, parce que ça pourrait tout faire déraper. Alors, ces policiers palestiniens, Fabienne, y repèrent aussi bien ceux qui manifestent, et les drones de l'armée israélienne qui survolent tout ça contribuent à ces identifications.
Et alors, si on se fait repérer, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, quelques jours plus tard, eh bien, vous vous faites arrêter. Il n'y a pas une nuit où ça ne se passe pas, une nuit sans arrestation. En fait, vous êtes dans le viseur dès que vous vous opposez au Fatah et à Abu Mazen. Vous savez, c'est le surnom de Mahmoud Abbas, le président palestinien, qui est jugé trop conciliant. Et si vous avez lancé une pierre, eh ben, le tarif, c'est simple, hein, c'est 2 ans de prison. Alors, les petits-fils de Noman Abdeldayem, ces jours-ci, eh bien, ils se contentent de regarder. Il faut dire que Fadi, l'aîné, a plusieurs fois été dans les prisons israéliennes et palestiniennes. C'est là qu'il a été récemment passé à tabac et torturé. Alors, un rien désabusé, il regarde les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux.
Ça, c'est les images d'un soldat israélien qui veut arrêter un jeune palestinien. Le commentaire, c'est comme si je joue au foot. T'as entendu? Il a voulu l'attraper, il n'a pas mis le but. Ils sont devenus fous, les soldats.
C'était un jeu. Ils s'amusent, les jeunes s'amusent avec les bières, et les soldats s'amusent à tirer les bombes et les magasins.
Les jeunes, pourquoi ils viennent envoyer des cailloux? Il n'y a pas de distraction. S'il était libre d'aller à la plage, libre de sortir, de partir en voyage, et de vivre en paix, il n'aurait pas envoyé de cailloux. Mais à force de d'entasser quelqu'un dans une cocotte minute, à force, vous voyez bien, la cocotte minute, elle tourne, après elle fait psst, elle éclate. C'est la même chose. Les jeunes, c'est la même chose. Tous les jeunes du monde entier, c'est tout ce qu'on demande, de vivre en paix et libre. Tout le monde te dit, ce qui a été pris par la force va se récupérer que par la force. Il y a des gens de mon âge, au moins 30 ans, ils savent pas, ils sont jamais allés à Jérusalem.
Et c'est très près, Jérusalem.
C'est 16 kilomètres, une demi-heure.
On a l'impression que les gens en Palestine, de plus en plus, sont tellement déçus par les politiques.
Ils sont déçus. On a fait des accords d'Oslo, Oslo, Oslo, Oslo. On n'a jamais eu un changement jusqu'à maintenant. Vous avez bien vu, les colonies augmentent. S'ils se fâchent avec nous, ils coupent l'électricité. C'est si on les embête un peu plus, ils mettent des barrières. On est dans une prison à ciel ouvert.
Et vous disiez, ouais, les politiciens...
Ils ont fait le bordel partout. Personne ne sait qui est bien maintenant. Le président Abou Mazen, tout ça, ils ne nous intéressent pas.
Mais ils sont tous pareils.
Voilà, tous pareils, en laissant ces gens désabuser une fois encore, Claude.
Oui, c'est vrai que on le sent, et surtout venant des gens qui ont fait en fait la première intifada, ce qu'ils disent, c'est « je suis trop vieux, de toute façon ça marche pas, et puis je ne vais pas libérer la Palestine avec une pierre ». Ça, c'est ce que disent les plus pragmatiques devant la puissance de frappe évidente de l'armée israélienne, et puis l'inertie conjuguée de l'autorité palestinienne. Alors, il faut dire que cette autorité, elle est perçue vraiment ici comme la supplétive des Israéliens, juste là pour administrer la Palestine pour le compte de l'État hébreu, bien pratique pour faire la sale besogne sécuritaire, une autorité palestinienne qui est rongée par les scandales de corruption. Quant au Hamas, eh bien, il est perçu par beaucoup comme le responsable de la deuxième intifada qui a pour eux amené que la ruine et puis le blocus de Gaza.
Mais Claude, est-ce que ça veut dire que le temps des intifadas, donc ces réponses-là, il est passé, c'est fini?
Alors vraiment, c'est difficile à dire hein, et puis tout est toujours très très volatile là-bas. Alors ce qui est certain en tout cas, c'est que les rivalités dont je vous parlais hein, entre les factions palestiniennes, eh bien, désespèrent une part vraiment grandissante de la population qui se dit que finalement peut-être eh bien le vrai sursaut il passera peut-être par les Palestiniens de Jérusalem-Est. Eux, ce sont quand même les seuls à avoir réussi à faire reculer l'État hébreu l'été dernier après plusieurs jours de violences meurtrières. C'était au moment de leur révolte lorsque Israël avait tenté d'installer les portiques de sécurité, vous savez, sur l'esplanade des mosquées.
Alors une toute dernière chose, Claude, on dit beaucoup que les mots c'est une chose, bien sûr, mais le transfert d'une ambassade, c'est beaucoup plus qu'un bureau et un ordinateur. En gros, ça prendra du temps, ça prendra des mois, ça prendra même peut-être 2 ans. Est-ce que ça peut vouloir dire aussi que tout ça, c'est de l'esbrouffe?
Ouais, mais en tout cas, c'est sûr, hein, ça ne va pas se faire en 3 mois, ça vous avez raison. Rien que la construction, la sécurisation d'un tel bâtiment aussi sensible, ça va prendre des années. Mais finalement, vous savez, Fabienne, c'est peut-être pas vraiment ça l'important, parce que quand vous posez la question aux habitants de Jérusalem, ils sont tous très contents de cette décision, mais ils disent que finalement, pour eux, ça ne change rien, parce que pour eux, Jérusalem était déjà la capitale d'Israël. Et quand vous posez la question aux Palestiniens, eh bien, certains vous disent que finalement, eh bien, tout ça, ça permet de sortir de l'hypocrisie qui consiste à considérer les États-Unis en fait comme un médiateur neutre dans ce processus de paix. Bref, cela oblige tout le monde à tomber des masques.
Claude Guibal, grand reporter à France Inter, merci beaucoup de Retour des Territoires. Vous avez travaillé avec Jérémy Thuil, qu'on remercie aussi. Delphine Simon est là et c'est juste après ça.
Mr. Dean White Love. When you woke up this morning, everything was gone. By half past ten, your head was going deep. Now I'm winging like a bell from your head down to your toes. Like some boys told us, hey, it is something you should know. Last night you were flying, but today you're so low. When the time like these makes you wonder if you'll ever know. I've seen enough things as they appear to the others.
Alabama Tree, Woke Up This Morning. Peut-être que vous avez reconnu la bande originale de la série Les Sopranos.
France Inter, un jour dans le monde.
Le vrai du faux de l'Europe et Delphine Simon. Delphine, ce soir on mange du kebab à l'heure ou pas d'ailleurs?
Ah oui, je ne sais pas si vous êtes adepte de ces sandwichs à base de viande grillée.
Pas tous les jours.
Vous savez, on les fait rôtir sur une branche verticale. En Belgique, on appelle ça une pita. En Allemagne, c'est un döner. Eh bien, la rumeur enfle partout en Europe, Fabienne, depuis plusieurs jours. La fin des kebabs serait pour bientôt. Écoutez, par exemple, l'humoriste Vincent de Dienne qui a appris la nouvelle pendant sa tournée. Il lance l'alerte.
La tournée, c'est se souvenir qu'on n'est pas seul et que le monde tourne aussi et lire sur France TV Info, les kebabs pourraient bientôt être interdits en Europe. Alors là, je vais être un tout petit peu brutal, mais c'est hors de question.
Vincent de Dienne qui fait donc allusion à des infos, effectivement, qui circulent sur Internet et qui circulent dans la presse. Alors, c'est vrai ou pas cette interdiction européenne du kebab?
Ben non, c'est faux, Fabienne. Le kebab est bien au centre d'un vote au Parlement européen cette semaine, mais la question n'est pas de les interdire, c'est beaucoup plus précis que ça. Les eurodéputés se sont prononcés sur l'usage de produits chimiques dans la viande grillée. Ces produits, ce sont des phosphates, ils sont en général interdit dans les aliments à base de viande, mais il y a des exceptions, le jambon ou les kebabs. Ah. On s'en sert comme additif pour agglomérer les bouts de viande autour de la broche. Pour l'instant, rien d'illégal. La Commission européenne voulait donc même les autoriser, sauf que la Commission santé du Parlement européen a posé un veto. Selon les parlementaires, il y a des risques pour notre santé. Cette objection devait être confirmée hier dans l'hémicycle, mais en séance plénière, il a manqué 3 voix. Le kebab avec phosphate a donc encore de beaux jours devant lui.
Alors
Fabienne,
quand même, cette rumeur, elle est venue d'où?
Eh bien, d'une polémique orchestrée par une partie des députée de centre-droit. L'une de ces députées allemandes a posté sur les réseaux sociaux une tribune dans laquelle elle affirmait que les parlementaires européens allaient interdire la viande de kebab partout en Europe. Elle a également alerté sur le risque de dizaines de milliers de suppressions d'emplois, car le döner kebab est très populaire en Allemagne, où il est arrivé avec la communauté turque. La plupart des producteurs de brochettes s'y trouvent. Ce raccourci est donc complètement faux, mais il a tout de même fait les titres de la presse européenne durant plusieurs jours.
Mais alors au fond, qu'est-ce qui est en jeu là-dedans?
Bien, c'est tout le débat autour du principe de précaution. C'est le kebab qui cache la boucherie, je cite certains écologistes. Les détracteurs de ces additifs phosphatés pointent un risque plus important de maladies cardiovasculaires. Plusieurs études iraient dans le même sens. Ils pointent aussi une arnaque. Les additifs permettraient de gonfler artificiellement le volume de la viande de kebab. S'il existe un doute sérieux sur leur nocivité, il ne faut pas attendre pour interdire, disent-ils. À l'inverse, pour d'autres, il sera toujours temps d'interdire s'il s'avère que le produit est vraiment toxique. En attendant, nul besoin de mettre en péril tout un secteur. Finalement, c'est l'Agence européenne de sécurité des aliments qui devrait avoir le dernier mot. Elle est en train d'évaluer les effets de ces produits chimiques sur la santé. Résultat attendu d'ici fin 2018, Fabienne.
Ben écoutez, on patientera donc jusque-là. Delphine Simon, merci beaucoup. On file à San Francisco. Pour l'édito du journal Le Monde et Corinne Laine, depuis donc San Francisco. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Fabienne.
San Francisco qui est en deuil, Corinne. La ville a perdu son maire. Il s'appelait Ed Lee, il était démocrate. Il est mort brusquement à l'âge de 65 ans. Un homme au parcours emblématique de ce qu'on appelle chez vous le rêve américain. C'est ce que vous nous expliquez.
Oui, ça a été un choc. Mardi matin, les habitants ont appris la mort de leur maire en se réveillant. Personne ne s'y attendait. Ed Lee n'avait que 65 ans, vous l'avez dit, et il n'était qu'au milieu de son deuxième mandat. C'était une figure appréciée à San Francisco. Les gens s'étaient habitués à son allure bonhomme, sa moustache grise, son look de petit commerçant plus que d'homme politique. Il a eu une crise cardiaque alors qu'il faisait ses courses au supermarché de son quartier. Bref, c'était un homme comme tout le monde, et c'est pourtant lui qui a transformé la ville et qui en a fait la capitale mondiale des technologies. Aujourd'hui, Airbnb, Uber, Salesforce, Twitter, Yelp, Mozilla, j'en passe, ont leur siège à San Francisco. Sans parler des startups, il y en a une pour 1000 habitants.
Et il était aussi le premier maire d'origine asiatique, Corinne.
Oui, Son élection a été une grande source de fierté pour la communauté asiatique qui représente 38% de la population de San Francisco et particulièrement pour les Sino-Américains. Les Chinois se sont longtemps tenus en retrait de la vie politique aux États-Unis. Beaucoup gardent en mémoire le souvenir des persécutions du début du XXe siècle, la fameuse loi sur l'exclusion, les quotas d'immigration. À San Francisco, ils n'avaient jamais accédé à la mairie alors qu'un habitant sur cinq est d'origine chinoise. Ed Lee, c'était le rêve américain incarné. Ses parents étaient arrivés du Guangdong dans les années 30. Son père était cuisinier, sa mère couturière. Il a été le premier de sa famille à aller à l'université à Berkeley où il a fait du droit. Jeune avocat, il s'est engagé dans la défense des clandestins de Chinatown, logés dans des conditions d'insalubrité extrêmes. Il y avait organisé la première grève des loyers en 78. Pendant 20 ans, il a occupé des postes administratifs à la municipalité. En 2011, il est devenu maire presque sans le vouloir quand le sortant, Gavin Newsom, a été élu gouverneur adjoint de la Californie. Ed Lee devait être un maire de transition. Il avait même promis de ne pas se présenter. Mais la communauté chinoise l'a plébiscité.
Alors cela dit, Corinne, l'histoire est belle, mais le bilan, lui, ne fait pas l'unanimité quand même.
Oui, le dernier sondage avant sa mort lui donnait moins de 50% d'opinion favorable. Beaucoup lui reprochent d'avoir laissé entrer le loup dans la bergerie, en l'occurrence les géants des technologies, qui étaient cantonnés jusque-là dans la Silicon Valley. Leur arrivée a fait tripler les prix de l'immobilier. Ed Lee les a attirés en leur offrant des allègements d'impôts en 2012, à condition qu'ils s'installent dans des quartiers en déliquescence. Le premier a été Twitter sur Market Street, suivi d'une vingtaine d'autres. Mais 5 ans après, les sans-abri sont toujours là. Les retombées de la tech n'ont pas profité aux plus pauvres, alors que le budget de la ville a augmenté d'un tiers. 10 milliards de dollars cette année, soit autant que Paris. La crise des homeless, c'est le grand échec du maire Lee. Un paradoxe pour quelqu'un qui avait passé sa jeunesse à lutter pour le logement social. Des élections sont prévues en juin 2018. D'ici là, la présidente du conseil municipal fait l'intérim. Elle s'appelle London Breed. Elle aussi s'est élevée à la force du poignet. Elle aussi est une pionnière, la première femme noire à la tête de la ville de San Francisco.
Corinne Lenne à San Francisco pour Un jour dans le monde sur France Inter. Merci beaucoup. La suite du 18-20, c'est le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne. Quel service public de l'audiovisuel voulez-vous ? C'est le moment de nous le dire. 01 45 24 7000.